La croissance de l'IMEL au cours des dernières années, on pourrait dire au cours des dernières décennies, s'est appuyée pour beaucoup sur des acquisitions. L'entreprise a donc pu croître plus rapidement que le marché et ainsi augmenter son importance sur celui-ci. L'Association des technologues en agroalimentaire avait invité le premier vice-président de l'IMEL à élaborer sur le thème « Nourrir le monde ».
Oui, c'est possible de nourrir le monde à partir d'ici. L'IMEL en est une preuve éloquente. Nourrir le monde à partir d'ici a ses défis. Il y en a plusieurs qu'on est capable de surmonter ensemble, comme industrie. Puis il y en a d'autres, bien, je pense que c'est lié à l'entreprise, à ses démarches, à ses stratégies pour réussir à accomplir ce grand mandat-là. Fier de ses origines québécoises, bien oui, on est né ici par une fusion des activités de la coop fédérée et du groupe Olympia qui regroupait trois familles, les Bonneau, les Ouellettes et les Bienvenus. Et ça s'est fait, ça, en 1992. Donc, à l'intérieur d'un quart de siècle, deux entreprises se réunissent et réussissent à développer et l'amener à l'endroit où elle est. Fier de ses origines, la qualité irréprochable de ses produits, de ses 13 000 employés, donc on est rendu un groupe quand même assez important au terme de la distribution, autant dans les types d'activités que dans la localisation géographique. Puis on a comme motivation, mission quotidienne, ensemble on nourrit le monde. Ensemble, évidemment, c'est le 13 000 employés directement chez nous, mais c'est aussi le ensemble avec les partenaires avec qui on se doit de travailler. Puis je parle évidemment du secteur de la production, mais je parle aussi de tous les services qui entourent la production, qui entourent nos propres activités de transformation. Et on nourrit le monde, bien, c'est le monde d'ici comme celui d'ailleurs. Il y a des défis, il y a des enjeux pour une entreprise qui est localisée surtout au Québec, de nourrir le reste du Canada, comme d'aborder les grands marchés. Autre élément, c'est bien sûr, c'est la question des valeurs de l'entreprise. Parce que aujourd'hui, dans un univers aussi concurrentiel qu'on le vit, où les produits se déplacent nord-sud, est-ouest, si vous n'êtes pas en mesure d'avoir des valeurs et de les respecter à l'égard de vos clients, à l'égard de vos employés, lorsqu'on parle d'un groupe de 13 000 personnes, lorsqu'on n'est pas capable d'appliquer ces valeurs-là à l'ensemble des fournisseurs, moi, je pense que je peux même prédire que les entreprises qui n'ont pas de valeurs, pas nécessairement celles-là, mais qui ne les respectent pas, ces valeurs-là, c'est une organisation qui risque d'être confrontée à différents enjeux. Donc, chez nous, c'est l'intégrité du produit, le respect dans les relations d'affaires, respect autant avec le fournisseur qu'avec le client. Évidemment, la question de confiance devient extrêmement importante parce que lorsque vous avez des entreprises dont leur affaire repose sur votre service, sur la qualité de votre produit. Prenons un exemple d'une entreprise qui ne vend que de la volaille, qui ne vend que du poulet. Si votre produit n'est pas irréprochable, vous attaquez directement à ce moment-là son brand, donc sa valeur. Donc, ces notions-là, dans le marché actuel, sont extrêmement importantes pour être capable d'aborder à long terme les marchés. Au fil des ans, c'est bien sûr qu'on a fait un développement qui a été SOS pour mieux desservir les marchés. Et il y a des grandes étapes dans notre développement, mais la première grande étape à l'extérieur du Québec, ça a été non pas avec Red Deer en Alberta, mais plutôt au début des années 90. Peu de temps après la formation, c'était dans la volaille à ce moment-là, en Ontario, pour les produits de volaille surtransformés. La répartition des ventes chez l'IMEL, là, je le fais en tonnage, donc vous voyez à peu près 22-25% pour le secteur de la volaille et environ les trois quarts des ventes de l'organisation se font dans le secteur du porc, que ce soit le frais ou le transformé. Et à l'intérieur de nos activités dans le porc, bien, vous voyez, on est autour de 20% de produits transformés, 80% de produits frais. Et une proportion qui est à peu près similaire dans le secteur de la volaille. Donc, une répartition, je vous dirais pour nous autres, elle n'est pas idéale. On est trop présent dans le frais, pas assez dans le transformé. Ces chiffres-là ont évolué au fil des ans, non pas parce que nos volumes de transformé ont réduit, c'est plutôt que notre croissance s'est passée plus rapidement dans le secteur du frais que dans le secteur du transformé. Mais ça fait partie toujours de notre plan d'affaires, de vouloir rééquilibrer des statistiques qui devraient nous amener davantage à la hauteur de 30 % minimum qu'à cette statistique-ci. Si je regarde rapidement pour vous décrire la production porcine chez nous, où nous en sommes rendus maintenant, je vais commencer par l'Ouest canadien. L'Ouest canadien, on a une entreprise là, qui s'est agrandie au fil des ans, acquisition en 2013 de Holy Sky à l'époque. Il y a eu de multiples acquisitions par la suite. On voit que c'est une diversité géographique qui est très grande. C'est un gros avantage en termes de statut sanitaire. Puis vous le comprendrez, surtout dans une situation comme maintenant, où il y a eu un cas de DEP qui est apparu il y a une dizaine de jours en Alberta. Mais la localisation fait en sorte, quand on voit 800 km, 1000 km, on a le bénéfice de l'espace et de la non-concentration pour protéger le statut sanitaire. Mais qu'est-ce que c'est, Olimel, maintenant, dans l'Ouest canadien? Bien, c'est près de 59 000 truies. Il y en a à peu près 3 000 pour le volet reproduction, mais à peu près 55 000 truies qui sont davantage destinées à produire des porcs commerciaux. Notre propre organisation livre à l'abattoir environ 1,5 million de porcs par année. C'est un volume qui commence à être substantiel. C'est un volume qui peut représenter n'importe quoi entre 65 et 70 % de nos abattages. Et la raison pour laquelle on a une position aussi dominante dans nos propres abattages, c'est le fait que beaucoup de producteurs ont délaissé la production dans l'Ouest canadien. Et pour maintenir un niveau d'approvisionnement, bien, le choix était simple. C'était simple, tellement simple qu'il était évident. Il fallait qu'on s'investisse davantage nous-mêmes en production pour maintenir des opérations dans l'Ouest canadien. Dans l'Est, structure très, très différente. Ici, on ne possède pratiquement pas d'élevage à 100 %. On le fait beaucoup en collaboration avec nos propriétaires, que ce soit du réseau coopératif, que ce soit avec le groupe Agrimarché, que ce soit avec le groupe Robitaille. Donc, c'est une structure qui est très différente, mais qui, somme toute, fait en sorte que nous sommes impliqués directement avec nos partenaires, mais dans à peu près 1 600 000 cochons qui nous sont livrés directement. Donc, proportion très importante, mais structure extrêmement différente quant à la réalité de la propriété. Projet dont on est bien fiers, qui commence à prendre son élan, à vrai dire, c'est les fermes boréales, donc des fermes collectives qu'on a décidé de développer avec le réseau coopératif dans un premier temps, puis maintenant avec des partenaires externes, de façon à aller dans Abitibi, un endroit où le statut sanitaire était très, très élevé, pour permettre d'élever, évidemment, des truies, puis évidemment avoir des porcelets de pleine santé. On est rendu que le premier groupe, la première phase de 5, est complètement vendue. La quatrième sera en opération prochainement, la cinquième en construction. Et on a déjà les sixième et septième unités de vendues. Ce qui fait que le projet qui était lancé avec une idée de 3 groupes de 5 est en très bonne voie de réalisation. On atteint à peu près 50 % de notre objectif à cette étape-ci. Puis, je pense que ça rend compte, notamment lorsqu'on regarde les performances technico-économiques, les objectifs que les producteurs voulaient se donner ensemble, collectivement, pour avoir un outil performant. Il y a des défis dans l'Ouest. Trop de capacités, pas assez de parts. C'est vrai chez nous, c'est vrai chez Maple Leaf, c'est vrai chez High Life. Il n'y a aucune croissance en Alberta. Vous avez vu les statistiques, il y a de la décroissance. Et lorsqu'il y a de la croissance dans l'Ouest canadien, elle se fait au niveau des maternités pour livrer des porcelets sevrés aux États-Unis. Donc, la question qui va se poser pour les entreprises qui opèrent dans l'Ouest canadien, dans un milieu quand même assez compétitif, oui, le coût de production est plus bas, mais les indices de référence qui servent à payer les prix sont à peu près du même écart que l'écart du coût de production, ce qui fait que net-net, le producteur n'est pas dans une meilleure situation. Sa structure de production peut être différente, peut être dans un milieu de grains, il y a une série de facteurs qui sont différents, mais sur le plan économique, il n'y a pas tant d'écart que ça entre le prix payé entre Québec, si je regarde les indices, là, je fais la correction des indices, ça ressemble pas mal à ce qui se passe ici. Fait qu'il y a un gros enjeu dans l'Ouest canadien, mais le potentiel est là, les grains sont là, et c'est possible. Tantôt, je montrais la carte de l'Iscaï, mais la carte de l'Iscaï, c'est que les bâtiments sont à peu près à 2 heures les uns des autres, en plein milieu d'un champ de céréales, ce qui fait que l'approvisionnement local et de proximité ne se compare pas à ce qu'on peut vivre ici, notamment dans certaines régions excentriques. Dans l'Est, ben, vous le savez, le parc des bâtiments est vieillissant. Ça fait longtemps que ce n'est pas fait d'investissement ici non plus au niveau des engraissements, les investissements des dernières années. Comme on l'a fait dans Boréal, ça s'est fait beaucoup au niveau des maternités. L'abandon des naisseurs-finisseurs, on s'attend à ce qu'il y ait un certain nombre de producteurs qui vont se convertir aux normes du bien-être animal, mais il y en a un certain nombre qui va lâcher, puis là, ça va remettre en question nos volumes d'approvisionnement ou ça va nous amener à devoir investir davantage. Et évidemment, dans un contexte où il y a moins de places de qualité, bien, il y a une féroce compétition pour mettre la main contractuellement sur des places de finition. Je n'ai pas parlé volontairement de la mise en marché. On sait qu'on est devant la régie. Il y a des positions quand même qui sont assez diamétralement opposées entre les requêtes des producteurs et ce que les transformateurs sont prêts à payer. On verra quelle est la décision que la régie rendra, mais c'est certain que ça va soulever, dans un cas comme dans l'autre, si c'est accordé dans le sens de ce que demandent les producteurs, mettre une pression énorme sur les transformateurs. Je ne sais pas quelles seront nos décisions à ce moment-là. Et si c'est le statu quo, quelle sera la réaction au niveau du champ, à savoir quant à la continuité des opérations. Mais ça, c'est un sujet qu'on va discuter probablement plus allègrement au cours des prochains mois, en tout cas dans les mois qui vont suivre la décision, assurément. Dans la volaille opérée, la croissance, elle est relativement stable depuis un certain temps. On parle de 2 % par année. Ce que je veux vous faire valoir, c'est il y a quand même une répartition d'entreprises qui est légèrement différente dans le secteur de la volaille par opposition à celle du porc. Colimel, évidemment, quand ça, c'est notre volume total d'abattage, incluant l'ensemble de nos opérations. Et volume-là a évidemment connu un bond important par rapport à Maple Lodge à cause de notre récente acquisition de Pinty's en Ontario. Mais on voit qu'il y a quand même un groupe de joueurs assez important, de taille critique aussi très, très, très correcte. Contrairement à ce que, si vous avez présenté dans le port, vous auriez vu Maple Leaf, vous auriez vu Olimel, Maple Leaf, puis ensuite on change de catégorie. Donc les structures d'entreprises sont très différentes. Au Québec, on a beaucoup d'entreprises dans le port, il en reste peu dans le reste du Canada. Dans la volaille, c'est un petit peu l'inverse, c'est qu'il reste deux entreprises importantes dans la volaille au Québec, mais il en reste un nombre extrêmement important dans le reste du Canada. Ce que ça peut vouloir laisser croire avec la consolidation, c'est qu'il y aura des transactions qui risquent de s'opérer dans le secteur de la volaille à l'extérieur du Québec. Chez nous, ça paraît peu. On a quand même une croissance en 5 ans d'à peu près 35 millions de kilos de produits transformés. Ça, c'est à peu près la taille de l'usine de Saint-Henri. Mais là, une fois que Saint-Henri est pleine, puis elle était déjà pleine, ça s'est réparti dans un ensemble d'activités, ça veut dire qu'il faut regarder par en avant et ça va vouloir dire soit développement de capacité ou des acquisitions. Nous, on préfère un volet d'acquisition pour un ensemble de considérations.
Ici Lionel Levac. Olimel est donc toujours active ou à tout le moins très attentive à toute possibilité de transaction qui permettrait encore de consolider l'entreprise et de la rendre toujours plus compétitive. Dans mon prochain blog, je poursuivrai avec d'autres propos de Paul Beauchamp à propos de cette volonté de consolidation par la voie d'acquisition. Au revoir.